Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
La médecine fait partie des domaines où de nombreux progrès sont enregistrés en ce qui concerne notamment la prise en charge médicale, d'où la nécessité d'assurer une formation continue aux professionnels de santé pour leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et d'améliorer leurs compétences dans la pratique de la médecine. Quelle est l'importance d'une formation continue des médecins et que faire pour assurer cette formation? Je le disais en sommaire, on va aborder ce sujet avec Dr Pascal Tchamala, médecin directeur à la clinique Galima, mais aussi vice-président de l'association des anciens de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Je rappelle le numéro des contacts si vous voulez intervenir pendant ces sujets. Appelez au 081-890-6394. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, Dr Pascal Tchamala, on parle de la formation continue de médecins. Est-ce que vous pouvez d'abord aider les auditeurs à comprendre qu'est-ce qu'on entend par une formation continue avant de savoir pourquoi c'est important pour le médecin?
Merci. Pour ce qui est de la formation continue, le médecin, avant de devenir médecin, il est formé. Il est formé à la faculté de médecine pour acquérir des connaissances qui vont lui permettre de prendre en charge les cas des patients qui vont se présenter chez lui. Ces connaissances ont une évolution extraordinaire. Ça change chaque jour. Chaque jour, on a des nouvelles techniques, etc. Actuellement, on opère avec des robots à distance. C'est pour vous dire seulement cela. Et donc, il est important. Il est très important que le médecin soit mis à jour par rapport à ses connaissances, parce que sinon alors il ne pourra pas bien assurer son travail et surtout il ne pourra pas bien accomplir sa mission qui est de prodiguer des soins, pas seulement des soins de qualité. Et la qualité demande une formation continue en cours d'emploi. Voilà pourquoi la formation continue est une nécessité vitale pour un médecin qui veut vraiment bien rendre service à ses malades.
Et comment il faut assurer cette formation continue au médecin? Ça se passe comment?
Eh ben, ça se passe à plusieurs niveaux, hein. À chaque matin, par exemple, au niveau de l'hôpital, d'un hôpital.
Oui.
Les médecins passent en revue les cas qui ont été admis pendant la nuit, par exemple, pendant les gardes. Et chacun émet son avis sur le diagnostic. Et celui qui en connaît plus va pouvoir développer les nouvelles technologies ou plutôt les nouvelles connaissances sur la pathologie qui est en cours. Et pouvoir ainsi améliorer, ce que je peux dire, leur protocole de prise en charge par rapport à telle ou telle ou telle pathologie. Simplement la malaria, il y a tout un tas de molécules, donc de comprimés, de médicaments qui sont sortis sur le marché. Il faut en connaître non seulement l'existence, mais aussi les effets secondaires, les effets bénéfiques pour le malade, etc. Et donc, il y a déjà, au cours de l'hospitalisation, au lit du malade, une façon de se former en continu. Il y a aussi des séminaires qui sont organisés au niveau des services, au niveau des unités, pour parler de tel ou tel sujet, faire la revue épidémiologique des pathologies qui ont été enregistrées pendant un mois au cours du service, et en faire une revue et essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, on trouve qu'on a un taux de mortalité élevé par rapport à telle maladie, eh ben il faut essayer d'en comprendre les raisons et éventuellement corriger au niveau de service certaines pratiques. Ça demande une formation continue. Alors, au plus haut niveau, il y a des congrès qui sont organisés sur des divers thèmes. Par exemple, actuellement, là, du 16 au 18 au 20, nous allons organiser un congrès, le quatrième du nom, au niveau du fleuve Congo Hôtel. Eh ben, le thème, ce sont les urgences médico-chirurgicales. On va parler autour des urgences, aussi bien en médecine interne, en gynécologie, en pédiatrie qu'en chirurgie. voilà à peu près les opportunités que nous avons de nous former, sans oublier qu'il est possible actuellement par télémédecine de pouvoir s'auto-évaluer par rapport à ses connaissances à travers des documents, à travers des émissions ou à travers je dirais des Facebook ou enfin des pages internet qui peuvent vous permettre de vous évaluer. Par exemple, nous avons au niveau de la clinique Galima je sais pas, un logiciel qu'on appelle Excellensis qui vous permet de pouvoir vous auto-évaluer par rapport à vos connaissances. Et donc c'est très très important pour un médecin de participer à la formation continue parce que dans d'autres pays, oui. Quand vous n'avez pas la preuve que vous avez assisté à une formation continue, on vous retire votre numéro d'ordre. On vous dit, écoutez, monsieur, vous ne garantissez pas que vous avez des nouvelles techniques, que vous avez des nouvelles connaissances sur votre domaine.
Et cette formation doit être, comment dire, sanctionnée par...
Oui, souvent, elle est sanctionnée par un brevet de participation.
Oui.
Un brevet de participation que vous pourrez montrer à votre conseil national d'ordre des médecins pour prouver que vous avez gardé la qualité dans vos prestations et que vous méritez de continuer à jouir de votre numéro d'ordre. Et si vous n'avez pas ça, dans d'autres pays, en Afrique du Sud, etc.,
oui.
On vous retire le numéro, on vous envoie vers un maître qui lui fait de la formation continue, et lorsqu'il aura écrit pour dire que, bon, voilà, cette personne s'est formée, alors on vous remet votre numéro d'ordre.
Alors, vous avez dit donc, c'est important pour un médecin d'avoir cette formation continue. Vous venez de parler, d'ailleurs, de ces congrès qui vont être organisés. Ça sera ici à Kinshasa du 16 au 18 novembre prochain. Et vous avez dit le thème, c'est sur les urgences médico-chirurgicales. Oui. Alors, pour un tel congrès, par exemple, est-ce qu'il y a des invitations lancées à des médecins ou bien tout médecin intéressé à ces... C'est vrai qu'ils sont organisés par l'association des anciens... des anciens de la faculté de l'université de Kinshasa, mais est-ce qu'il y a d'autres médecins qui sont intéressés, qui suivent par exemple à ce moment cette émission, qui s'est dit tiens, ça peut être intéressant pour moi, je pourrais être là, bien il y a des invitations lancées.
Effectivement, comme vous dites si bien, c'est organisé par l'AFMED,
oui.
Mais ce n'est pas limité aux AFMED.
Oui.
Et donc tout médecin, d'où qu'il vienne, d'ici ou d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui est le thème principal.
Oui.
C'est les médecins d'ici et d'ailleurs. D'ici, ce sont les Congolais ou ceux qui résident au Congo. Et d'ailleurs, ce sont des Congolais de la diaspora ou d'autres médecins de la diaspora des pays étrangers qui veulent bien venir. Et donc, l'invitation est lancée à tous les médecins. Et donc, et même cette année, nous sommes allés plus loin, les infirmiers vont assister. Et donc, c'est une plateforme que nous avons mise en place pour pouvoir fédérer les gens qui voudraient bien faire de la formation continue dans les différents domaines de la médecine. Hein. J'ai dit bien médecine interne, chirurgie, gynéco, oui. Pédiatrie. Et la participation est de l'ordre de 80 dollars. Vous voulez participer, vous devez payer 80 dollars parce que, bon, la formation, ça se paye. Hein. On peut pas commencer à faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est lancé à tout médecin, tout infirmier qui s'est senti, tout pharmacien. En fait, on n'a pas dit aux anciens médecins on a dit aux anciens de la faculté de médecine. Alors, à l'époque, la faculté de médecine regroupait aussi la faculté de pharmacie, etc.
Oui.
Donc, c'est une invitation lancée à tout professionnels de santé.
Alors vous avez dit puisque le congrès ça fait aussi partie de la formation continue, parce que vous l'avez dit un peu la formation continue c'est peut d'abord commencer au niveau même de l'hôpital lors de la réunion du matin où on fait des échanges par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que les autres donnent comme avis. Et vous avez également parlé des séminaires et vous avez dit au plus haut niveau c'est par exemple le congrès. Alors pour rester par rapport au congrès qui va se faire ici, vous avez dit c'est le 4e du nom. Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme ton bilan par rapport à tout ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous estimez vraiment que cela apporte un plus, hein, pour, j'imagine bien qu'il avait d'autres thèmes pour le 3 premier congrès. Est-ce qu'il y a un suivi pour savoir est-ce que vraiment c'est bon, ça marche, le médecin, ils sont en train de comment dire, d'acquérir vraiment des nouvelles expériences, qui, vous avez des témoignages comme ça?
Effectivement, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour les médecins. On voit un engouement extraordinaire. Oui. On compte sur 400, 500 personnes et puis on se retrouve avec 600, 700 personnes. Et ça, c'est une chose. Mais en intrinsèque, on voit que c'est une culture qui doit s'acquérir. Oui. La culture met longtemps. Mais longtemps. Et donc, nous sommes conscients que du premier au quatrième, nous allons en progression. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a poussé de faire de ces congrès quelque chose d'annuel. Parce qu'on pouvait se dire tous les deux ans, tous les trois ans. Mais on a vu un tel engouement que nous avons décidé que ça soit quelque chose d'annuel. Mais il faut reconnaître que c'est une culture. C'est une culture que les gens doivent acquérir parce qu'il y a d'énormes difficultés. Par exemple, l'accessibilité financière pose problème. Apparemment, ça pose problème parce que tous ces médecins, bon, je m'excuse beaucoup.
Est-ce que d'abord, pour organiser ces genres de congrès, vous le faites en partenariat avec le ministère de la Santé ou bien c'est vraiment une initiative, par exemple, là c'est privé de l'AFMED, ou bien c'est en partenariat avec le ministère de la Santé?
Nous avons des sponsors. Bien sûr, le ministère de la Santé est informé.
Oui.
Excusez-moi. Est informé de cela, mais nous sommes sponsorisés par des autorités politiques, des autorités financières, des autorités académiques, etc. Nous avons besoin d'être sponsorisés parce que le coût pour organiser ce genre de choses est vraiment prohibitif, mais pas inaccessible. Et donc, c'est un problème d'organisation et nous sommes en train de nous atteler pour ça, pour faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose de pérennisé, mais surtout que les médecins, que les professionnels de santé puissent progressivement en faire une culture. En faire une culture, ce qui se passe dans d'autres pays, et il y va de la qualité de nos prestations. Il suffit pas de donner des soins comme ça aux gens. Encore faut-il que les gens puissent avoir les soins de la qualité. Et la qualité a un prix, c'est entre autres la formation.
Voilà, nous parlons de l'importance de la formation en continu de médecin avec Dr Pascal Tchamala, médecin directeur à la clinique Gallima. Si vous êtes intéressé par ce sujet, nous rappelons le numéro des contacts. Appelez au 081 890 63 94. Vous pouvez également réagir sur la page de Facebook au Capi Service.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Nous avons déjà en ligne Jean Damboche qui nous appelle de Kolwezi Malonga qui est à Bandundouville. Jean Damboche, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour aussi à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Moi, je voudrais dire ceci. Puisqu'aujourd'hui, sur toute l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons remarqué qu'il y a eu la multiplicité des centres de formation presque en plusieurs domaines. Est-ce que c'est pas possible qu'on puisse aussi créer des centres de formation pouvant aider les médecins à pouvoir approfondir leurs connaissances, comme c'est le cas avec d'autres options que nous remarquons, par exemple ceux qui font la formation en mécanique et autres. Donc il n'y a pas moyen qu'on puisse aussi créer des centres de formation pour pouvoir les aider.
Voilà, merci Jean Damboche, l'invité va répondre à votre question. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Malonga, quelle est votre question?
Oui, bonjour Marcel, bonjour à notre invité.
Oui.
Bon, bonjour. Ma question, je veux dire seulement, ce n'est pas ma question, ce n'est pas la question toute faite, mais c'est une préoccupation ici.
Oui.
Moi, je crois que médecins, est-ce que les médecins qui sont formés là-bas, ce sont les médecins qui ont déjà traité ou bien ils sont déjà en fonction ou bien ceux qui sont en voie de devenir le médecin. Puisque moi, je vois qu'un médecin vraiment fonctionne, c'est déjà un formateur. Il ne peut pas être encore formé. Peut-être on peut organiser seulement des séances et renforcement des capacités. S'il y a quelque chose à les informer, s'il y a des ajouts dans la science médicale, on peut les informer dans des séminaires. C'est ce que je veux dire, c'est ceci. Si un médecin est formé aujourd'hui, est-ce qu'il compte?
Il y a quelques soucis techniques avec la ligne de Jean Dabosch. Bon, on a compris un peu sa préoccupation. Plutôt de Malonga, merci Tati qui nous appelait de Bandundouvi. On va revenir à notre invité, docteur Pascal Tchamala, pour réagir par rapport à ça. Docteur, d'abord Jean Dabosch qui a demandé à dans le domaine médical par exemple, est-ce qu'on peut parler aussi de centres de formation pour aider le médecin à approfondir la connaissance, bien acquérir de nouvelles connaissances.
Bonjour Jean, merci pour la question. En fait, ici, je parle de la formation continue en cours d'emploi. Et il n'est plus question de rentrer à la faculté et de commencer à dire que bon, voilà, l'anatomie est comme ça, etc. Non, c'est en cours d'emploi. Les médecins s'organisent pour que, à certaines périodes, ils puissent se rencontrer pour échanger et partager les expériences et pouvoir enrichir. Et là aussi, je saute sur Monsieur Malonga, que je salue. Oui. Il parle de renforcement des capacités, mais c'est un problème de vocabulaire. Hein. C'est de la formation. C'est de la formation, mais c'est pas de la formation classique. C'est pas les gens qui doivent aller à la faculté. Ce sont des gens qui sont médecins formés, qui vont se former, s'auto-former en cours d'emploi. Il ne faut pas dire qu'une fois qu'ils ont été formés à la faculté, c'est tout. C'est pas vrai. À la faculté, effectivement, on peut sortir avec la plus grande distinction, mais si pendant 3 ans, vous n'avez pas renouvelé vos connaissances, en Afrique du Sud, par exemple, on vous retire carrément votre autorisation d'exercer l'art de la médecine. C'est pour vous dire que la qualité, c'est la formation de tous les jours. La qualité doit devenir une culture. Et une culture vient avec des gestes qu'on pose d'une façon courante et régulière.
Et vous avez également, je crois, il a compris, vous avez également dit la formation continue pour ceux qui sont des gens qui sont déjà en,
absolument, c'est
en, c'était, qui travaillent déjà,
effectivement,
pas encore les qui sont encore étudiants, qui doivent encore d'abord décrocher leur diplôme de médecin, de
c'est ça,
tout à fait.
Voilà. C'est une formation en cours d'emploi. Vous travaillez comme médecin et en même temps vous vous formez.
Ouais. Voilà, on va découvrir également ces réactions qui nous est parvenue sur notre page Facebook. C'est Théocrate David qui écrit ceci. C'est Théocrate David, licencié en santé publique Eastern Bukavu. Les principaux objectifs du renforcement des capacités du personnel soignant, c'est assurance qualité. Il n'y a pas qualité de soins ou skill sans renforcement des capacités du personnel, surtout en ce moment où la machine de la modernité envahit tous les secteurs à travers le monde. Si le personnel soignant est performant avec skill, nous observons plusieurs avantages au sein du personnel et la communauté. Assurance qualité, personnel performant, baisse du taux de mortalité chez les enfants tout comme chez les adultes. Votre commentaire.
Ben, tout à fait. David, qui est formé en santé publique, a très bien compris la chose. Il ne s'agit pas ici de rentrer à la faculté pour commencer à faire les ABC. Là, vous les avez déjà eus. Ce sont des renforcements des qualités. Et le renforcement des qualités, de capacité, je veux dire, c'est pour que il y ait qualité. La qualité, c'est la satisfaction des besoins des bénéficiaires. Et la qualité, à cette époque-ci, est placée à un niveau, la barre est vraiment haut. Alors, si la barre est vraiment haute, nous devons nous former tous les jours. Il n'est pas dit que nous devons absolument avoir toute la technologie, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire « nous devons être équipés », etc., etc. Nous sommes équipés, nous avons été formés, nous avons des connaissances. Et sur et aussi bien à la radio au CAPI, que je salue, et que sur d'autres véhicules de médias, nous avons chaque fois des leçons, des opportunités de nous former continuellement et d'améliorer les pratiques que nous avons. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est de se dire « Ah, on n'a pas de scanner, donc bon, on doit attendre. On n'a pas de résonance magnétique, on doit... » Non, la malaria, comment on la prend en charge? On doit
doit améliorer la prise en charge de malaria, les diarrhées des enfants. Comment on fait? On doit essayer d'améliorer ça. Nous avons tout un tas de problèmes que nous avons sur le terrain que nous pouvons améliorer et faire en sorte que la qualité de vie soit meilleure, parce que c'est là notre métier. C'est nous qui avons cherché à devenir des médecins ou des professionnels de santé. Nous devons à la population des prestations de qualité. Et pour ça, il faut une formation continue.
Un autre auditeur en ligne, Rajabou, qui nous appelle de Kindu. Rajabou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à l'invité, le docteur Etchamala Pascal.
Merci.
On vous écoute.
Ok. Moi, ma préoccupation, c'est que vraiment, cette formation continue-là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça aide, comme l'a dit l'invité, ça aide les médecins à actualiser leurs connaissances. Maintenant, ma préoccupation, c'est au niveau des instruments qu'un médecin peut avoir besoin. Vous pouvez former quelqu'un en théorie, par exemple. Vous pouvez lui montrer les nouvelles théories. Bon, par exemple, lui, il peut quitter, par exemple, et puis il arrive là-bas. Bon, vous le formez à de nouvelles théories, mais les instruments maintenant que lui peut utiliser, est-ce que vous pouvez lui montrer comment utiliser ces instruments-là, mais une fois il arrive maintenant sur place, ou bien il rentre là où il travaille, il n'a pas les instruments-là. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit écart là entre les théories et les instruments que lui peut utiliser sur place? Et puis,
oui.
C'est à Kinshasa toujours que peut-être c'est à Kinshasa que vous pouvez utiliser que vous pouvez organiser ce congrès-là. Est-ce que ce congrès-là peut aussi s'organiser en province? Sont là de m'aider, petites préoccupations.
Voilà, merci à Rajabou d'avoir appelé des Kindou. Docteur, ça sera également pour vous l'occasion de répondre à cette question qui nous est parvenue par SMS. C'est Nicole qui nous écrit de Dilolo. Elle écrit ceci: est-ce que les hôpitaux de l'arrière du pays vont-ils bénéficier aussi de ces formations? Parce que quelqu'un évoquait aussi à Kindou, par exemple, vous venez à Kinshasa, vous avez suivi la formation quand lui-même, bon, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre, toutes ces nouvelles connaissances.
Voilà, bonjour Rajabou, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est là le problème, effectivement. La formation continue, c'est une formation en cours d'emploi. À partir de ce que vous faites, à partir de ce que vous avez. Quand vous allez venir ici, par exemple, on va pas vous dire, c'est vrai, il y a des gens qui viennent, par exemple, de France, qui vont vous dire, nous, en cas d'urgence, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons. À partir du matériel qu'ils ont. Et vous, ici à Kinshasa, moi j'ai fait des tours à l'intérieur et j'ai vu par exemple les salles d'urgence sont démunies de tout et je me demande comment vous faites pour pouvoir continuer à rendre service aux gens. Vous avez avec vous certains matériels que vous avez qui est peut-être dépassé mais qui dans votre milieu vous permet de rendre service aux gens. Par exemple, quand vous avez une hémorragie digestive actuellement sur rupture des varices œsophagiennes, je pense que Rajabou est quelque peu médecin, actuellement il y a tout un tas de techniques qui existent, mais il existe un moyen tout à fait simple, c'est de mettre un ballon au niveau de l'œsophage pour faire compression. Ces ballons-là est accessible à tout le monde et ces ballons, si vous venez ici à Kinshasa au cours de la formation continue et que vous apprenez à poser ce ballon, il est possible qu'au retour, vous puissiez vous procurer ce matériel et partir avec chez vous.
Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire en dehors du fait que vous pouvez manquer d'équipement, mais par rapport à ce que vous avez, on peut peut-être vous dire voici la nouvelle méthode pour soigner par exemple telle maladie et peut-être voilà la nouvelle façon de doser, ça fait pas de la formation, quand vous apprenez également davantage et ça peut vous permettre, même si vous êtes par exemple dans un hôpital à Kindu, et de suivre ce que vous venez d'acquérir, même si je voulais voir un peu en dehors des équipements, il y a quand même des formations conduites par exemple sur de nouvelles façons de soigner la diarrhée, tout ça compte.
Tout à fait, il faut des protocoles, des protocoles de soins. Vous n'allez pas croiser les bras parce que soi-disant vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas d'échographe, les gens continuent à venir vers vous. Qu'est-ce que vous faites? quand les gens viennent. Vous posez des gestes, mais ces gestes peuvent continuellement être améliorés. C'est ça qu'on vous demande de faire. Vous apprenez que, voilà, actuellement, on fait les accouchements de telle façon, et que chez vous, vous avez telle façon de le faire. Vous pouvez progressivement essayer d'acquérir la nouvelle façon qui semble être beaucoup plus à la portée des gens, et pouvoir l'imposer dans votre milieu. Et donc, c'est ça. Ce sont des échanges, lorsque vous venez dans ce genre de choses, des échanges. Voilà. Vous, vous faites ceci, mais voilà, chez moi, c'est que je fais. Alors, on va te dire, mais avec ce que tu fais et ce que tu as sur le terrain, voilà comment tu peux améliorer ta technique. Avec ce que tu as, il faut compter d'abord sur ce qu'on a en main, plutôt que d'attendre les bras croisés, ce qui va venir de je ne sais pas où.
Voilà, mais est-ce que les hôpitaux de l'arrêt pays vont-ils bénéficier de ces formations? Est-ce qu'avec les temps, on peut penser également à des formations à l'intérieur du pays, peut-être la FMED?
Mais comme j'ai dit, hein, vous m'avez posé la question, où est-ce qu'on fait la formation continue? C'est là où vous travaillez. Ok, bon, il arrive qu'à un certain niveau, on puisse organiser des congrès. Des associations, des organisations savantes organisent des congrès dans leur domaine, en gynéco, en pédiatrie, etc. Tous les médecins, tous les professionnels de santé sont invités. Le problème, c'est peut-être d'être informé à temps et d'avoir les moyens financiers pour venir jusqu'à Kinshasa. Voilà. Parce que c'est vraiment une auto-formation et vous y mettez de vos moyens. Il ne faut pas toujours attendre Maman Olive Talabi Soli Kambo et ainsi de suite. À un certain moment, il faut se prendre en charge.
Voilà. Esta nous appelle de Kalemie. Esta, bonjour. Bonjour, Esta.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Ok, ma question est celle-ci.
Oui.
Moi, je suis d'abord infirmier. Je suis en train de travailler dans la zone de santé de Kalemie.
Oui.
Je suis en train de demander comment nous qui sommes à l'intérieur du pays et qui travaillons souvent dans les campagnes, comment pouvons-nous bénéficier de telles formations afin d'enrichir notre connaissance?
Bonjour Esta, tu es infirmier, c'est extraordinaire. L'infirmier, c'est le ciment à l'hôpital. Hein. Si l'infirmier n'est pas là, bon, il y a personne à côté du malade. Et donc, comment pouvez-vous bénéficier? Voilà, vous venez de téléphoner. Il y a des formations qu'on fait à distance. Il y a des formations qui se trouvent sur Internet. Il y a des formations qui passent. Moi, je viens de faire une tournée dans les chefs-lieux des provinces quand il y en avait 11. Bon, maintenant, il y en a 26. On verra comment on peut le faire. Il y a des gens qui se déplacent de Kinshasa pour venir vers nos frères et nos amis qui sont en province pour organiser les formations continues. Mais même là, chez vous, sur place, par exemple, nous qui sommes dans le réseau de l'État, il est prévu au niveau de la DPS, donc au niveau de la direction provinciale de la santé, il est prévu une direction de formation continue. C'est vous dire que ça existe.
Mais docteur, parce qu'on fait signe qu'il est toujours en ligne, j'aimerais demander à Esta par rapport à ce que vous avez dit. Esta, oui. Est-ce que vous avez déjà eu des formations? Là où vous êtes infirmier, vous avez déjà eu des formations? Esta, vous êtes en ligne?
Je n'ai encore eu aucune formation parce que depuis, on organisait des formations quand on avait un partenaire qui essayait d'appuyer la zone de santé. Mais actuellement, comme nous n'avons plus un partenaire pour appuyer la zone de santé, nous n'avons aucune formation, nous n'avons encore reçu aucune formation. Nous sommes en train de presser seulement comme ça.
Voilà.
Mais
merci Esta, oui.
Esta, mais c'est ça le problème. On ne doit pas attendre les prestataires, ou plutôt les je ne sais pas moi, comment est-ce qu'il les a appelés encore?
Les partenaires.
Vous êtes capable d'organiser, vous, à votre niveau, je ne sais pas, vous êtes infirmier à 1 ou à 2 ou à 3, vous pouvez former les gens qui sont à 2, qui sont à 3. Et comme je vous ai dit, au niveau de la direction provinciale de la santé, il y a un service de formation continue en cours d'emploi. Vous devez l'utiliser. Les partenaires, c'est bien, mais malheureusement, les partenaires viennent et puis ils partent hein, quand ils ont fini d'accomplir leur mission. Et est-ce que nous allons chaque fois attendre que Jésus-Christ revienne pour qu'on puisse...
Voilà, il faut se battre hein, donc pour avoir cette formation
avec
continue
ce avec qu'on a, ce qu'on a.
Voilà, c'est docteur, possible. Voilà, des questions par SMS. La Philippe Roland qui écrit à sa Kinshasa, il écrit ceci. Le docteur Tshamala est médecin directeur à Ngaliema, il est gastro-entérologue. Et comment il compte améliorer son service à Ngaliema puisque beaucoup de médecins ont leurs hôpitaux privés comme lui. Ah bon? Et ne sont plus souvent là. Je crois que est-ce que c'est incompatible avec la formation continue hein, par rapport à la question que vous avez dit. Il y a des gens qui ont des hôpitaux privés qui peut-être négligent là où ils travaillent pour prester mieux dans leurs hôpitaux privés. On dit par exemple les cas de docteur Tshamala qui est gastro-entérologue. Comment vous faites pour améliorer les services, les prestations à la clinique Ngaliema?
Ben comme le docteur Philippe a dit, je le salue. Ce n'est pas parce qu'on a un cabinet privé et même qu'on est médecin directeur qu'on ne doit pas avoir l'opportunité de faire de la formation continue. Au contraire, parce que je suis médecin directeur, je me forme continuellement aussi sur la gestion, parce qu'on devrait en parler. C'est pas parce qu'on est un médecin que tout d'un coup on est capable de diriger une institution. Ce n'est pas écrit dans le programme de l'université. On doit se former continuellement. Ce n'est pas parce que vous avez un cabinet privé que vous ne pouvez pas avoir le temps de faire de la formation continue. Au contraire, si vous avez un cabinet privé, c'est que vous avez estimé que vous avez des prestations de qualité. Et les prestations de qualité, vous ne pouvez les avoir que par la formation continue.
Et là, demandez, comment vous faites pour améliorer ces services en Ngaliema? Est-ce que au niveau de la clinique Ngaliema, il y a des formations comme ça qui sont organisées?
Tout à fait, il y a des formations. Et d'ailleurs, au cours de cette session, ce quatrième congrès, il y a un mini congrès, il y a des ateliers aux cliniques universitaires, il y a des ateliers à l'hôpital général des références provinciales, Mama Yemo, il y a des ateliers à la clinique Ngaliema. Ça, c'est pour le 19 et pour le 20. Et donc, c'est vous dire, et même en dehors de ça, dans les services, nous encadrons les stagiaires, nous encadrons les spécialistes, nous encadrons les infirmiers, etc. Nous avons un programme de formation, nous avons même un service de formation continue dans notre hôpital.
Docteur Richard Mukaling est en ligne et nous appelle de Kinshasa. Bonjour docteur Richard.
Bonjour Marcel Ngombombala. Bonjour docteur Tshamala, mon confrère.
Bonjour Richard.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis très heureux de suivre votre radio pour apprendre de la bouche du docteur Tshamala ce thème très important de la formation continue du médecin. Alors, voici ma préoccupation dans cette joie. Je dis que la formation est trop verticale. C'est-à-dire, celui qui est médecin, il ne voit que les quatre grandes branches de la médecine. Médecine interne, chirurgie, pédiatrie, etc. Et les autres branches connexes. Ça, c'est un. Deux, la notion de formation horizontalisée chez nous n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Un médecin va apprendre, par exemple, qu'est-ce que les aliments-médicaments, parce qu'on en parle aujourd'hui. Excusez-moi, je croise un véhicule qui a beaucoup de bruit.
Alors, allez-y, on
vous écoute. C'est-à-dire, nous ne voyons pas dans cette formation le fait de mettre le médecin autour des producteurs alimentaires et regarder ce qu'il y a dedans. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est comme le professeur Théophile Bemba, que je salue, a sorti un ouvrage sur les aliments qu'on consomme dans les bandundu. Là-dedans, il y a les mandindi, les kikalakasa, etc. Même les mayebo, voilà. Et autour du professeur, vous ne verrez pas le médecin. Celui qui achète ce produit-là, ce livre-là, on le regarde avec des yeux bleus. Il y a aussi les professeurs de pharmacie. Je cite Kambuka Bang, où j'achète souvent ses ouvrages. Il a écrit que la papaye est un anti-inflammatoire, que l'ananas anti-inflammatoire. Vous ne verrez pas les médecins que nous sommes autour de ce professeur. Nous regardons la médecine telle qu'on nous a formés, médicaments et surtout les médicaments de synthèse, qui ont aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je suis allé récupérer un module à l'école de santé publique parce qu'à mon époque, la gestion des urgences et des catastrophes n'était pas là. Mais j'étais vilipendé avant d'accéder à ce cours par le professeur qui donnait ça. Et pourtant, deux mois avant, j'avais payé les frais pour récupérer ce module qui était très important pour moi, selon moi. Et j'avais même mené une étude pour convaincre le directeur à l'époque de KMB, pour le convaincre à m'admettre. Et il a compris que c'est que mes observations se superportaient avec leur observation. Laquelle, par exemple, vous voyez, quand vous prenez le tronçon aéroport de Ndjili, aéroport de Ndolo, vous comptabilisez les civières qui sont là, les secouristes qui sont de part et d'autre dans les maisons qui longent cette grande rue, ou ce grand boulevard.
Oui.
Il n'y en a pas. Alors, comment on peut parler de la gestion des urgences et des catastrophes?
Voilà,
qu'est-ce que cette formation pour mobiliser la communauté autour de la gestion des urgences et des catastrophes comme médecin de santé publique au sein de la communauté?
Voilà.
Mais pour accéder dans la salle, je fus d'abord vilipendé.
On a compris, docteur Richard. Oui, on a compris.
De la salle,
oui,
il fallait que le directeur intervienne.
On a compris. Docteur Richard, s'il vous plaît.
Que nous souhaitons, que ça soit organisé et que la faculté admette aussi ceux qui veulent aller apprendre, par exemple, aujourd'hui, la toxicologie médicale.
On a compris.
Il va y apprendre ça.
Exactement.
Il paye le frais, il rentre dans l'auditoire, il suit le cours, il pose aussi des questions. Ce qui était triste pour moi, je n'avais pas droit à la parole.
On a compris.
Pour améliorer les prestations.
On a compris la préoccupation. On a compris la préoccupation.
J'étais avec les femmes médecins dans la préparation de Fumboa. Vous savez que le Fumboa tel que le quinoa prépare ça, ce n'est pas un Fumboa médical.
Docteur Richard, s'il vous plaît, docteur Richard, on a compris à votre préoccupation, docteur Pascal Tchama, vous l'avez également compris. Donc pour docteur Richard, il ne faut pas rester seulement dans, c'est vrai, la formation conduite c'est bon, mais il ne faut pas rester dans les branches traditionnelles, c'est-à-dire médecine interne, pédiatrie, mais il faut également associer, par exemple, d'autres aspects. Il a évoqué, par exemple, sur le plan de la nutrition, comment on peut, les médecins peuvent également être formés, et par rapport à savoir sur le plan alimentaire, par exemple, qu'est-ce que peut aider peut-être également à conseiller aux personnes malades plutôt que de prendre des médicaments. Il a parlé également, il y a d'autres aspects qui, lui, estime que le médecin doit aussi sur une formation continue de manière à ce qu'on puisse compléter différents domaines.
Docteur, je voudrais vous remercier pour votre intervention, mais vous rassurer que au niveau des congrès, la formation n'est pas verticale. Elle est aussi bien verticale que horizontale. C'est parce que toutes les formations, toutes les sensibilités médicales sont représentées. Tout le monde est invité. Et d'ailleurs, j'espère que vous vous êtes inscrit. Je compte beaucoup sur vous pour intervenir sur ce genre de choses, parce que le thème actuellement, ce sont les urgences médico-chirurgicales. Vous avez fait allusion à l'organisation qui ne vous semble pas être dans le sens des urgences. Je vous invite vraiment à venir prendre votre inscription, et je me ferai un plaisir de vous rencontrer déjà dès le 16 au niveau du Fleuve Congo Hôtel où se tiennent ces assises.
Alors, il y a cette question aussi par SMS. Est-ce que les médecins sont rappelés à l'ordre, hein, par rapport au serment d'Hippocrate? Souvent, avant des soignants, on demande de l'argent et les malades meurent. Est-ce que par rapport à la formation continue, est-ce qu'on rappelle également aux médecins les serments d'Hippocrate?
La formation continue profite surtout au Conseil national de l'ordre des médecins, oui. Parce que c'est elle qui est garante de la qualité et des prestations. C'est elle qui va dire, je te donne un numéro d'ordre pour pouvoir soigner les gens. Je te retire ce numéro d'ordre parce que j'estime que la qualité n'est pas bonne. Et donc, le Conseil national a aussi des opportunités au courant des journées déontologiques de pouvoir interpeller les médecins sur leur pratique, sur l'éthique. Ça, c'est prévu aussi.
Voilà, docteur Tchabala, merci d'avoir été avec nous dans ce studio pour parler de l'importance de la formation continue des médecins. bien vous rappeler les dates pour le congrès, parce que c'est une opportunité également pour avoir une formation continue. Rappeler les dates pour le congrès.
Ah ben, les dates pour le congrès, c'est le 16, le 17 et le 18 au Fleuve Congo Hôtel, le 19 aux cliniques universitaires, le 20 à l'hôpital général Mama Yemo et à la clinique Ngaliema.
Et les frais de participation?
C'est $80.
Voilà. Oui. Merci, docteur Pascal Tchamala. Vous êtes médecin directeur à la clinique Ngaliema, mais aussi vice-président chargé des relations publiques à l'AFMED. L'AFMED, c'est l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir donné cette opportunité.